Merci pour l'invitation. Donc, comme vous l'avez dit et comme l'indique le titre, c'est vrai que c'est une présentation qui est assez interdisciplinaire entre donc chimie et sciences de l'univers. En fait, je vais vous montrer que j'utilise des outils donc, de chimie pour répondre à des questions de sciences de l'univers. Donc, notamment par l'étude de la matière organique des environnements naturels. Alors, quel type d'environnement? On s'intéresse au laboratoire à différents environnements, les sols, les eaux continentales, les sédiments, les roches anciennes, les météorites. Donc vous voyez que ce sont des objets qui sont sans doute assez éloignés de ce que vous avez l'habitude de faire en chimie pure. Alors pourquoi ces études? Pour répondre à un certain nombre de questions qui sont l'origine de cette matière organique. La nature des précurseurs, la matière organique dans les environnements naturels, on ne sait pas forcément d'où, enfin de quoi elle dérive, quels sont les organismes sources, les processus de formation, le devenir dans le milieu naturel et sa dynamique, hein, en termes de dégradation, notamment pour les problèmes environnementaux, et les rôles dans les processus environnementaux. Alors évidemment, ce dernier point concerne, enfin les deux derniers même, concernent moins les roches anciennes et les météorites, mais plus la première partie des types d'échantillons. Alors, de manière un petit peu plus précise, je vais vous indiquer donc nos objets d'étude et les grandes problématiques auxquelles on s'intéresse ou on s'est intéressé récemment. Alors, en ce qui concerne la matière organique des sols, il y a tout un travail qui est actuellement fait sur la dynamique du carbone et de l'azote. Bon, le carbone, on comprend bien avec tous les aspects, cycle du carbone et intérêt environnemental. Et on s'aperçoit que bah, dans la matière organique, il y a aussi l'azote et que cet azote est très très peu pris en compte. L'azote est généralement considéré uniquement sous sa forme minérale. Donc l'un des aspects au laboratoire, c'est maintenant de faire rentrer l'azote organique dans les aspects cycle biogéochimique. On a travaillé sur l'influence de l'utilisation des sols et notamment le passage de la forêt à la culture sur la nature de la matière organique. Il était connu depuis longtemps que ce passage forêt-culture induisait une baisse importante de la teneur en carbone des sols, mais d'un point de vue qualité, qualitatif, on ne savait pas du tout ce que ça faisait. Et on s'intéresse au transfert de matière vers les rivières. Alors, dans deux environnements en particulier, l'un concerne le dégel du permafrost, donc ce sont ces grandes régions arctiques qui sont enfin, gelées en permanence et qui maintenant, avec l'effet du réchauffement climatique, sont en partie dégelées, enfin, tout du moins certaines. Donc, lors du dégel, eh bien, le flux d'eau entraîne évidemment de la matière et notamment de la matière organique parce que les sols qui sont sous ces régions, enfin, dans ces régions à permafrost, ce sont des sols qui sont très riches en matière organique. Il y a notamment des tourbières, donc des sols très très riches en carbone. Et puis, ben ça d'ailleurs, je vous en présenterai un exemple, un travail sur les rivières noires amazoniennes, comme vous voyez en photo ici, pour essayer de comprendre l'origine de la couleur noire de ces rivières. Donc ça nous permet de faire la transition avec les eaux. Alors, ce qu'on appelle eau naturelle, c'est essentiellement eau de rivière. Donc, on a essayé de regarder quelle était la variabilité spatio-temporelle de la composition de la matière organique dans ces environnements, et puis toujours un aspect particulier sur l'azote. Et alors, deux autres types d'objets qui répondent à des questions assez différentes et sur lesquelles je vous présenterai des résultats. Les roches anciennes, bon, avec une question, enfin, j'appellerais fondamentale et assez excitante, qui est de dater l'apparition de la vie sur Terre, puisque ben, on peut avoir des approches purement de géologie, et je vous montrerai comment, avec des approches de chimie, on a pu apporter quelques éléments supplémentaires à cette question. Et puis, donc ça, c'est une roche qui a 3,5 milliards d'années. Et puis les météorites, qui sont des objets aussi un peu fascinants, auxquels on s'est intéressé, en particulier pour connaître ben, le mécanisme de formation de cette matière organique. C'est quelque chose enfin, auquel on ne pense pas forcément, mais il y a de la matière organique dans les météorites, on le verra. Et connaître la formation des météorites permet d'avoir des informations sur la chronologie du système solaire. Donc en résumé, je dirais que je fais de la chimie moléculaire sur des géomatériaux. Alors, tout d'abord, les météorites. Donc, pourquoi étudier les météorites carbonées? Bon, donc, comme je vous disais, il y a de la matière organique dans les météorites. C'est une matière organique qui est extraterrestre. Donc, c'est quelque chose qui est un petit peu fantastique et qui présente un intérêt en exobiologie pour savoir comment la vie a pu apparaître sur Terre. D'autant plus qu'il y a quelques années, enfin, je dirais une bonne dizaine, plusieurs dizaines d'années, des acides aminés ont été trouvés dans la fraction soluble à l'eau des météorites. Donc, tout de suite, les gens ont fantasmé en se disant, ben voilà, la vie sur Terre, elle est arrivée parce que on sait qu'il y a eu un fort bombardement météoritique et donc ça a amené les acides aminés et puis voilà. Donc, précurseur possible pour les premières formes de vie sur Terre. Alors, au-delà de ces questions d'exobiologie, nous, on s'est intéressé à voir en quoi la structure de cette matière organique se différenciait réellement ou pas de la matière organique terrestre. Et donc, est-ce qu'on pouvait mettre en évidence des signatures extraterrestres? Et puis, donc, comme je vous disais, comment s'est formée cette matière organique pour obtenir des informations sur l'histoire du système solaire. Donc, les météorites qu'on a étudiées sont ce qu'on appelle les météorites carbonées. Bon, je ne vais pas vous rentrer dans le détail de la classification des météorites. Il faut savoir, c'est qu'elles contiennent de 1 à 4 % de carbone, donc ce qui n'est pas une teneur énorme, mais ce n'est pas négligeable non plus, et c'est largement suffisant pour travailler. Donc nous, on a travaillé essentiellement sur ces 4 météorites, la date que je vous ai mise à côté, c'est la date de chute sur Terre. Donc ici, vous avez une photo de la météorite de Murchison. Donc, qui est tombé en 69. Alors, une anecdote, 69, c'est l'année, enfin, la grande année de la conquête lunaire. Et donc, l'avantage de la météorite de Murchison, c'est qu'elle a été tout de suite préservée, enfin, collectée et préservée dans les mêmes conditions que les échantillons lunaires. Donc, avec beaucoup de précautions, ce qui évidemment n'est pas du tout le cas pour Orgueil, qui traîne dans les tiroirs du muséum depuis un certain nombre d'années. Et Tagishlake est tombée en 2000 sur un lac gelé. Et donc, là aussi, bon, évidemment, elle a bénéficié de soins particuliers. Et en plus, le fait qu'elle tombe sur un lac gelé a permis de limiter les risques de contamination. Donc, je vous disais, il y a du carbone dans les météorites carbonées. Bon, il y en a sous diverses formes. Celle à laquelle on s'intéresse, c'est la matière organique, qui représente de l'ordre de 80 % de ce carbone. Et dans laquelle on différencie deux types de composés, les composés solubles. Alors, dans tout mon exposé, quand je parle de solubles, sauf quand je le préciserai, c'est soluble au solvant organique. C'est pas soluble dans l'eau. Enfin, c'est pas seulement soluble dans l'eau, puisque là, c'est dans l'eau et au solvant organique. Donc, nous, on s'est intéressé à la fraction insoluble, qu'on a appelée la MOI, matière organique insoluble, et qui représente de l'ordre de 90 % de cette matière organique. Alors, pourquoi cette fraction insoluble? Bien, il y a un intérêt particulier, c'est qu'elle est beaucoup moins sensible au risque de contamination terrestre. Et qu'en plus, quand même, ça représente la majorité de la matière organique de l'échantillon. Donc, on se dit qu'elle a dû conserver des informations précieuses. Alors, ça, c'était l'intérêt d'étudier la matière organique insoluble. Le problème, c'est que si ça n'a pas été fait de manière très extensive avant, c'est que ce n'est pas facile. En effet, bon, je vous disais, il y a du carbone de l'ordre de 1 à 4 %. Si on part sur 2 % à peu près, ça veut dire qu'on a 95 % de matière minérale. Et donc, ce qu'il faut, c'est qu'on aille chercher cette matière organique au sein de cette roche. Donc, ça se fait en plusieurs étapes. La première étape, c'est de broyer la roche, d'éliminer les composés solubles, donc qu'on n'analysera pas. Ensuite, de faire un certain nombre d'hydrolyses pour éliminer les composés hydrolysables. Et puis là, on a donc la matière organique insoluble, mais qui reste associée à cette matrice minérale et dont il faut se débarrasser pour pouvoir analyser en détail la matière organique. Et donc pour ça, on fait un traitement qui est assez violent, qui est une décarbonatation à l'acide chlorhydrique et puis un traitement à l'acide fluorhydrique pour éliminer les silicates. On a bien sûr pris la peine de vérifier que ces traitements n'altéraient pas la matière organique. Et donc, à la fin, on récupère donc de notre MOI plus quelques minéraux qui sont quand même réfractaires à ces traitements, comme la pyrite, hein, tout simplement. Certains nombres de sulfures ne sont pas solubles, enfin, ne réagissent pas avec HF ni avec HCl. Donc, vous imaginez que cette MOI, elle est inerte chimiquement, Donc, elle n'est pas facile à analyser. C'est pas comme une macromolécule type polysaccharide ou protéine où on va pouvoir appliquer un traitement, enfin des successions de traitements d'hydrolyse et qui vont nous permettre de séparer ce polymère en monomère et d'accéder à la structure des monomères. Là, on a quelque chose qui s'est formé naturellement, donc déjà de manière aléatoire, et qui en plus est non hydrolysable. Donc, je vais vous montrer comment on a combiné les outils analytiques et comment, en fait, chaque technique analytique apporte son élément de réponse et sa brique pour constituer à la fin un puzzle qui va permettre donc de donner une idée, tout du moins, de la structure chimique. Alors, on a démarré par des méthodes spectroscopiques, donc en particulier la RMN. Donc la RMN à l'état solide, évidemment, puisque la matière est insoluble. Donc de la RMN du carbone, comme représenté ici. Donc vous avez le spectre hein, qui est l'enveloppe et puis sa déconvolution à l'intérieur. Donc qu'est-ce qu'on voit? Eh bien essentiellement qu'on a des carbones aliphatiques qui sont ici et puis des carbones aromatiques qui sont ici, bon plus quelques fonctions. Donc avec une prédominance des carbones aromatiques. Et puis en plus bon quelques CH3 et puis CH2, une proportion de CH3 sur CH2 assez élevée. Donc ça a intéressé en particulier nos collègues astrophysiciens font des observations du milieu interstellaire et qui avaient remarqué que ce rapport était élevé dans le milieu interstellaire et donc se demandaient si la matière organique des météorites et la matière organique du milieu interstellaire avaient une origine commune ou pas. Donc voilà, sur ce point-là, il y a une analogie, mais on verra que sur d'autres points, c'est pas le cas. Quand on regarde l'azote, alors vous allez me dire que le spectre RMN n'est vraiment pas beau, surtout si vous êtes habitué à faire du liquide. Il faut savoir que bon, il y a moins d'azote que de carbone dans l'échantillon. Le rapport N15 sur N14 est beaucoup plus faible que le rapport C13 sur C12. Et en plus, ce qui caractérise la sensibilité de la RMN, le rapport gyromagnétique, fait que la RMN de l'azote 15 est en gros 4 fois plus faible en sensibilité que la RMN du carbone 13. Donc, on était déjà très content d'avoir un spectre. D'ailleurs, je crois que c'est le seul qui a jamais été obtenu sur la matière organique des météorites. Et ce qu'on voit, c'est que ce spectre, il est dominé par un signal de pyrrole-indole, donc de l'azote hétérocyclique, ce qui a permis d'éliminer une idée qui était que l'azote des météorites était de type amide, puisqu'on avait des acides aminés dans la fraction soluble et que donc la partie insoluble était obligatoirement le précurseur de cette fraction soluble. Donc non, ce n'est pas le cas. Alors la RMN a répondu à quelques questions, mais elle en pose d'autres. Et en particulier, bon, je rentre pas dans les détails de la technique, mais on utilise pour faire ces spectres ce qu'on appelle la polarisation croisée. C'est-à-dire qu'en fait, on utilise les protons, donc les hydrogènes, comme réservoir d'aimantation. Donc les carbones qui sont plus proches de ces hydrogènes vont être mieux détectés que ceux qui sont loin de ces hydrogènes. Et en faisant un bilan, bon, à partir de ça, on peut avoir une idée des abondances relatives des différents types de carbone, leur degré de protonation. Donc on peut recalculer un rapport H sur C. Et on peut le comparer au rapport H sur C obtenu par analyse élémentaire. Et là, on s'aperçoit qu'on a un déficit de carbone. On a de l'ordre de 30% de carbone qui ne sont pas détectés par RMN. Donc là, il y a deux hypothèses de structure possibles. L'une, c'est des grandes unités, même plus grandes que celle-ci, dans laquelle seuls les carbones situés autour et donc proches des hydrogènes seront détectés, mais pas ceux qui sont au centre, au cœur de l'unité polyaromatique. Ou alors, au contraire, des petites unités, mais qui seraient très hautement substituées par des chaînes. Et donc, on n'aurait pas de carbone à la d'hydrogène, pardon, à la périphérie de ces unités aromatiques. Alors, pour répondre à ces questions, on a fait intervenir une autre technique qui est peu utilisée par les chimistes, qui est la microscopie électronique en transmission à haute résolution. Alors, en fait, cette technique est basée sur l'analyse des interférences entre le faisceau directement transmis au travers de l'échantillon et celui qui va être diffracté par les plans aromatiques. Et donc, on va avoir une visualisation de ces franges d'interférence, et ces franges sont en fait directement la représentation des unités polyaromatiques et donc de leur taille. Donc il suffit de faire de l'analyse d'image sur une image comme ça pour avoir la distribution des franges. Là, vous avez des petites franges. Donc avoir la distribution des franges, leur degré d'empilement, l'espace entre les franges. Donc c'est ce que j'ai schématisé ici. Donc on a la longueur des franges, le nombre de franges qui sont empilées, et puis la distance interfrange. Et puis combien également on a de franges qui sont carrément isolées, qui ne sont pas incluses dans ces structures organisées. Donc à partir de ces études, on a vu que les unités étaient plutôt de petite taille, de l'ordre de 2 cycles en diamètre, qui correspondent donc en nombre de carbone à 15-25 carbones, qu'on avait beaucoup de franges isolées, donc un relativement faible degré d'organisation, et ce qui présentait une grande différence avec le milieu interstellaire, où au contraire, on a des unités polyaromatiques de très grande taille, très, très organisées, puisqu'on parle de plusieurs centaines de carbones. Alors, je vous ai dit en introduction qu'on avait cherché à mettre en évidence des signatures extraterrestres. Alors, ces signatures extraterrestres, on les a notamment trouvées en utilisant une technique de résonance magnétique qui n'est pas la RMN, mais qui est la RPE, donc à l'échelle de l'électron. Donc la résonance paramagnétique électronique. Donc en gros, c'est la RMN de l'électron. Donc il avait été montré depuis de nombreuses années que pour les charbons terrestres, donc, il y avait une corrélation entre le temps de relaxation, qui est indiqué ici, et la concentration en radicaux libres mesurée dans l'échantillon. En fait, la RPE donc, mesure des concentrations en radicaux libres ou des concentrations de spin. Et quand on met nos 3 météorites dans ce diagramme, eh bien, on s'aperçoit qu'elles sont en dehors de cette corrélation. Elles ont notamment des temps de relaxation plus courts que ce à quoi on se serait attendu compte tenu de leur teneur en radicaux libres. Donc ça a été interprété en disant que, ben, contrairement au charbon, les radicaux libres ne sont pas distribués de manière homogène dans l'échantillon, mais qu'on a des zones de concentration de ces radicaux libres, et donc qui induisent des concentrations locales élevées, et que ce sont ces concentrations locales qui sont vues par les temps de relaxation, et donc qui biaisent un peu cette corrélation. Donc ça, c'est une première signature extraterrestre, puisque ça n'avait été vu dans aucun échantillon terrestre. Une deuxième signature a été trouvé en regardant le nombre de spins, donc le nombre de radicaux libres, en fonction de la température. Pour tous les charbons terrestres, on a ce qu'on appelle un magnétisme de type poly, c'est-à-dire une insensibilité du nombre de spins à la température. En revanche, pour toutes les météorites étudiées, on a vu qu'on avait une augmentation de ce nombre de spins à partir d'un certain seuil de température, ce qui a été interprété comme traduisant la présence de 10 radicaux. Donc les 10 radicaux, ben, si on schématise une unité aromatique comme ça, hein, donc N, enfin là, le petit noyau central, c'est le noyau polyaromatique, et puis vous avez donc 2 groupements méthyle dessus. Si on fait un monoradical, ben, on va faire ça, et si on fait un diradical, ben, on va faire CH2 des deux côtés. Et donc dans le cas des météorites, on a formation et stabilisation de ces 10 radicaux, ce qui n'est jamais observé dans les échantillons terrestres. Et on a pu montrer qu'en fait, c'était directement lié aux petites tailles des unités polyaromatiques. Dès que les unités polyaromatiques sont de grande taille, les 10 radicaux sont moins stables. Enfin, la formation de 10 radicaux, le delta E2, est moins favorable que le delta E1. Et donc, ces 10 radicaux ne sont pas formés. Alors, je vous ai dit que je faisais de la chimie moléculaire. Pour l'instant, c'est pas très moléculaire. Donc, comment avoir une information moléculaire sur des macromolécules aussi complexes et hétérogènes? Eh bien, on applique une technique qui peut paraître un peu barbare, qui est la pyrolyse. En fait, c'est très simple. On fait un apport énergétique, c'est une énergie thermique, et toutes les liaisons qui ont une énergie de liaison inférieure à l'énergie apportée vont se casser. Cette pyrolyse se fait sous un courant de gaz neutre, ce qui permet donc d'entraîner les molécules formées dès qu'elles sont formées hors de la zone chaude, et elles sont ensuite analysées, enfin séparées d'abord par chromatographie gazeuse, puis analysées par spectrométrie de masse. Donc là, c'est l'appareil. Donc voilà à quoi ça ressemble un pyrochromatogramme. Alors, vous imaginez que ça s'analyse pas en 5 minutes. Hein, en fait, à chaque pic correspond au moins un produit. Donc, bon, grâce à la spectrométrie de masse et puis bon, un petit peu d'expérience, on arrive à identifier donc tous ces produits. Donc, on voit que ce sont essentiellement des unités aromatiques. En noir, les hydrocarbures. En rouge, les composés comportant une fonction oxygénée. En vert, les composés soufrés. Et puis, on a même un composé azoté ici en bleu. Donc, grande diversité, grande complexité de structure. Et en plus de ça, quand on regarde, bah, par exemple, ici, je vous ai mis le benzène substitué par trois carbones. Donc, trois carbones, ça peut être trois groupes méthyle avec la diversité de position. Ça peut aussi être un éthyle et un méthyle, ou même un propyle. Donc, pareil, dans le cas de l'éthyle méthyle, avec la diversité de position. Et on voit que quand on regarde ces benzènes C3, on a une grande diversité d'isomères. En fait, on forme tous les isomères qui sont possibles. Donc, ce n'est pas du tout une synthèse dirigée comme les biosynthèses qui sont faites sur Terre. Et ça, c'est une caractéristique aussi de ces synthèses aléatoires et synthèses abiotiques, non biologiques. Alors, pour aller plus loin dans l'information moléculaire, on s'est dit que peut-être qu'il y avait des fonctions qui étaient trop polaires dans cette macromolécule et qu'on ne pourrait pas les identifier. Donc, on a fait des pyrolyses en présence d'un agent méthylant, ce qui a pour objectif de transformer les OH et les NH2 en OCH3, NCH3 deux fois. Comme ça, les molécules qui sont libérées sont suffisamment apolaires pour être détectées en GC masse. Sinon, elles sont retenues sur la colonne et ne sont pas détectées. Donc là encore, vous voyez une grande diversité de produits. Et avec, je vous ai mis en rouge, les nouveaux produits qui n'avaient pas été détectés par la technique sans cet agent méthylant. Et ce qui a permis de mettre en évidence des fonctions ester et éther, et qui donc sont sans doute des fonctions qui permettent la liaison entre toutes ces unités aromatiques, entre elles, pour constituer l'édifice macromoléculaire. Parce que par pyrolyse, on a tous les éléments, mais on ne sait pas du tout comment ils sont reliés pour l'instant. Alors, quelque chose qui nous surprenait à l'issue de ces pyrolyses, c'est qu'on n'avait aucune information sur les chaînes aliphatiques. Or, si vous vous souvenez, l'ARMN du carbone 13 que j'ai montré en premier, on a un grand signal aromatique, mais on avait quand même un signal de carbone aliphatique. Donc, ces carbones aliphatiques, il fallait bien qu'ils soient quelque part. Donc, on a utilisé une autre technique, qui est une technique de dégradation chimique, hein, une oxydation, qui permet donc de couper les chaînes aliphatiques. Donc, là encore, on a une diversité de structures. Je vais vous montrer comment ça marche sur un petit modèle. En fait, quand on a une chaîne aliphatique qui relie deux unités aromatiques, on forme le diacide correspondant. Si cette chaîne aliphatique relie trois unités aromatiques, on forme le triacide. Bon, et puis s'il y a des fonctions, on les retrouve dedans. Et donc, on peut remonter donc au rôle initial de liaison de ces différents éléments dans la structure. Et donc, on a pu ainsi montrer que les chaînes aliphatiques qui reliaient les unités aromatiques étaient courtes, maximum 7 carbones, très ramifiées, et qu'on avait un fort taux de réticulation, puisqu'on a des triacides, donc des liaisons entre trois unités, et on confirme la présence de fonctions ester et éther. Donc, on a vu le carbone, on a vu les fonctions oxygénées, l'azote par l'ARMN de l'azote 15, et le soufre. Alors, le soufre, on a vu au cours de la pyrolyse qu'on avait des thiophènes, donc des composés hétérocycliques soufrés. Toutefois, on sait que la pyrolyse peut induire une aromatisation et transformer du soufre aliphatique en soufre aromatique. Il était donc important de vérifier sous quelle forme était le soufre initialement. Et c'est ce qu'on a fait par XANES, donc c'est une spectroscopie d'absorption des rayons X au seuil K du soufre. Donc voilà l'enveloppe, là encore, et puis les déconvolutions. Et on a pu ainsi montrer qu'on avait en fait 76% du soufre qui était dans les sulfures aliphatiques et uniquement 24% dans les thiophènes. Donc en prenant tout ça en compte, on s'est amusé et puis on s'est dit, ben, on va essayer de construire une structure modèle. Alors c'est en aucun cas une réponse unique, mais on a défini 11 paramètres quantitatifs. Alors, qui vont de l'analyse élémentaire à des rapports de fonction obtenus en RMN ou autre. Et on s'est autorisé un écart uniquement de maximum 10% par rapport à ces paramètres mesurés. Et donc voilà en gros à quoi peut ressembler la structure de la matière organique des météorites. Alors pour avoir quand même des informations sur sa formation à cette matière organique, on a regardé un petit peu quelle était sa composition isotopique en deutérium. Alors si on... Bon, là, c'est un petit élément structural pour vous illustrer les trois différents types d'hydrogène qu'on a pu mettre en évidence. Donc, ces trois types d'hydrogène se différencient par leur enrichissement isotopique en deutérium. Donc, on distingue les basiliques, les aliphatiques et les aromatiques. Vous avez ici donc les aromatiques directement sur les cycles, les basiliques en alpha et puis les aliphatiques plus éloignés. Et on s'est aperçu que le dessurage, donc l'enrichissement en deutérium, était corrélé à l'énergie de la liaison CH. Et cette corrélation a été renforcée par une autre analyse qu'on a faite, qui est une analyse, alors là, en cartographie, en imagerie, en sonde ionique, où on voyait, donc là, c'est la carte du deutérium. Et plus les points sont clairs, plus on a des zones riches en deutérium. Donc vous voyez qu'on a des zones exceptionnellement riches, qu'on a appelées des hotspots, qui sont ces points blancs, et pour lesquels on a un dessurage qui se trouve dans cette gamme-là. Et il se trouve que la liaison CH basilique, donc cette liaison-là, a une énergie de liaison qui est particulièrement faible par rapport aux autres composés aromatiques, donc ce qui va bien dans le sens de notre corrélation. Donc ça montre que bah, finalement, plus la liaison est faible, ça veut dire que l'hydrogène est plus échangeable. Et plus cet hydrogène est échangeable, plus il est enrichi en deutérium. Donc ça nous a permis de montrer que la matière organique s'était enrichie en deutérium après sa formation, par échange avec un gaz riche en D, et non pas, contrairement à ce qui était cru depuis les années 70, qu'elle était directement héritée de molécules, de petites unités initialement enrichies en D qui s'étaient accrétées pour former la macromolécule. Donc voilà, c'était le premier exemple que je voulais vous montrer. Un deuxième exemple concerne les roches siliceuses archéennes, des roches qui sont très anciennes, hein, de l'ordre de 3,5 milliards d'années. Là, la teneur en carbone dans ces roches qui sont du silex, hein, donc en plus, c'est quand même pas quelque chose qui est facile à travailler, n'est que de 120 ppm, avec une teneur en azote évidemment encore plus faible. Et il y a eu toute une controverse sur ces roches, puisque dans les années 90, donc, ces structures avaient été observées et avaient été tout de suite attribuées à des microfossiles, alors que plus tard il a été dit que non, c'était vraisemblablement des artefacts. La spectroscopie Raman a montré qu'on avait effectivement du carbone dans ces structures. Donc l'auteur initial a dit, bah, vous voyez, s'il y a du carbone, c'est bien que c'est de la matière organique et donc c'est bien des microfossiles. Donc d'autres auteurs ont dit, oui, c'est de la matière organique, mais rien ne dit que c'est de la matière organique d'origine biologique. Et le Raman ne permet absolument pas de conclure. Et ce qui a fini de semer la pagaille, c'est qu'il y a eu une synthèse abiotique, donc complètement non biologique en laboratoire, qui a conduit à des filaments qui avaient cette tête-là, donc assez proche de ça, qui étaient des filaments inorganiques, enrobés de matière organique, et que le spectre Raman ressemblait étrangement au spectre de ça. Donc on s'est dit qu'il était vraiment nécessaire de trouver une biosignature dans cette matière organique. Donc on s'est intéressé à la matière organique insoluble pour des raisons encore plus sensibles que pour les météorites, puisque là, il fallait absolument s'affranchir de toute contamination post-sédiment, hein, que ce soit de laboratoire ou même des migrations au sein du système sédimentaire. Et il est admis par l'ensemble de la communauté que les structures covalentes, les structures vraiment liées, donc, sont enfin, non affectées par les contaminants. Donc on a utilisé la même procédure d'isolement de la matière organique et puis les mêmes approches spectroscopiques et pyrolytiques. Donc tout d'abord la RMN. Donc là encore, on voit qu'on a des carbones aliphatiques, des fonctions oxygénées assez importantes et des carbones aromatiques. Alors, comme ça nous étonnait un peu d'avoir ces fonctions, on a voulu quand même vérifier que ce n'était pas un artefact de RMN. Et donc, c'est bien confirmé par l'infrarouge. Et puis, quand on fait la pyrolyse, bien, à nouveau, on retrouve beaucoup de composés aromatiques, comme précédemment. Mais en plus, cette série que vous voyez là, de C8 à C25, qui sont des doublés alcanes-alcènes. Et ces doublés alcanes-alcènes, on sait qu'ils sont formés au cours de la pyrolyse par rupture homolytique de la chaîne de chaîne aliphatique. En fait, on forme le radical et ce radical se dismute soit en capturant un H-point, soit en libérant un pour former ces doublés. En plus de ces doublés, on a mis en évidence quelques composés thiophéniques et phénoliques. Alors, ces doublés nous ont particulièrement intéressés parce que quand on regarde leur distribution, donc qui est révélée là en spectrométrie de masse avec le fragment de Lyon 57, bien on voit qu'on a une prédominance des composés impairs par rapport aux composés impairs. On a entre C11 et C17 une distribution un petit peu en dents de scie. Et ça, c'est impossible à obtenir à partir de quelque chose qui est non biologique. Toutes les synthèses abiotiques ont toujours montré d'une part, une grande diversité d'isomères, alors que là, on n'a que les N-alcanes, on n'a pas d'autres isomères, on n'a pas de composés ramifiés, et surtout, pas de préférence paire-impair. Donc, on peut considérer que cette distribution des chaînes aliphatiques est vraiment un marqueur d'origine biologique de ces chaînes, et donc de la matière organique qui a été pyrolysée. Alors, la dernière question qu'on s'est posée, c'est ce serait bien maintenant qu'on a, enfin, la preuve que cette matière organique est d'origine biologique, de savoir quel type d'activité biologique ça pouvait être. Donc là, on en est encore au niveau des hypothèses. On a vu en pyrolyse qu'on avait des composés organosoufrés. Les composés organosoufrés dans la matière organique récente, c'est-à-dire moins de 500 millions d'années, se forment classiquement par sulfuration naturelle. En fait, il y a des bactéries sulfato-réductrices qui réduisent le sulfate en sulfure, et le sulfure est incorporé dans la matière organique. En parallèle, on a vu qu'on avait aussi du carbone et du soufre qui étaient associés en microscopie électronique à balayage. Donc, on peut se demander si il n'y a pas une activité sulfato-réductrice qui aurait déjà été existante à cette époque-là. Et un article, enfin, qui n'est pas du labo, qui est sorti en 2004, arrivait au même type de conclusion, avec une approche complètement différente, puisqu'elle était basée sur des isotopes du soufre, non pas dans la matière organique, mais dans la pyrite. Donc voilà un autre exemple d'application de ces outils de chimie moléculaire. Et alors le dernier exemple, qui est beaucoup plus proche de nous, puisqu'on, enfin, pas géographiquement, mais temporellement. C'est ce que je vous disais au départ sur les eaux noires du bassin amazonien. En fait, dans le bassin amazonien, on a des sols qui sont tout à fait particuliers, qui ont donc cet horizon très pauvre, cet horizon blanc, et puis en dessous duquel s'accumule de la matière organique. Donc à l'échelle du sol, enfin d'une coupe de sol, vous voyez, c'est cet horizon noir qui est là, et en bas de cette pente coulent des eaux qui sont particulièrement chargées en matière, en matière organique et qui se retrouvent après dans le Rio Negro, hein, comme son nom l'indique, est une rivière noire, et puis ensuite dans l'Amazone. Donc nous, on s'est intéressé à ces types de sols, bon, en plus pour des raisons environnementales, mais on a regardé principalement deux échantillons, l'un situé dans cette période, dans cette phase de transition qui est la formation de ce sol, et puis un autre plus loin. Donc voilà une illustration donc de ces eaux noires. Et vous avez donc ici les sols avant la podzolisation et puis les sols après. Et donc quand on fait des extractions à l'eau, on a tout un gradient de couleurs de nos extraits. Et donc la question qu'on s'est posée, c'est eh bien, est-ce que c'est plutôt cette zone de transition ou cette zone de podzol qui est la zone source de la matière organique qu'on retrouve dans les eaux noires? Et puis ensuite, à l'intérieur de chacune de ces zones, est-ce que c'est ce niveau-là? Alors ce qu'on appelle en sciences du sol les horizons, ce sont les différents niveaux. Donc est-ce que c'est plutôt les horizons de surface ou est-ce que ce sont plutôt les horizons de profondeur? Alors pour ça, on a regardé déjà si la matière organique de ces sols variait suivant ces horizons, puisque évidemment, si on a la même matière organique dans tous les horizons, on ne pourra pas conclure. Donc quand on prend un profil de sol comme ça, on voit qu'on a une nette évolution du spectre RMN avec des matières organiques plus aliphatiques dans certains niveaux, plus riches en fonction oxygénée dans d'autres et plus aromatiques dans cet horizon riche en matière organique. Donc des matières organiques contrastées qu'on retrouve dans les extraits à queue avec les horizons de surface qui sont plutôt riches en matière fraîche, donc comme l'indique ici par ce pic qui est attribué aux carbohydrates, et puis ce pic donc des carbones aliphatiques, et en revanche en profondeur des matières organiques plus aromatiques. Et en plus, quand on compare donc la zone de transition et la zone du podzol, on voit des différences, notamment entre les horizons profonds. Donc on a bien sûr fait de la pyrolyse sur ces échantillons et on a comparé les différents profils de pyrolyse avec comme objectif d'essayer de trouver des marqueurs de ces différents horizons pour ensuite rechercher ces marqueurs dans les eaux et donc pouvoir faire la corrélation. Donc, comme vu en RMN, on a dans les horizons de surface des carbohydrates et puis on met en évidence en plus des marqueurs de protéines, donc des matières organiques fraîches. Si on compare maintenant dans la transition la surface et la profondeur, on voit qu'en profondeur, on a la perte de ces marqueurs de surface et qu'en revanche, on voit apparaître un certain nombre de marqueurs spécifiques. Et si on compare maintenant cet horizon profond de la transition avec l'horizon profond du podzol développé, on retrouve certains marqueurs de celui-ci dans celui-là, les flèches bleues, mais pas avec les mêmes distributions, ce qui sera aussi un critère. Et surtout, on a deux produits supplémentaires qui sont indiqués là par les flèches rouges. Et donc, quand on regarde l'eau des nappes, donc l'eau de rivière, eh bien, on retrouve donc les produits correspondant avec les flèches bleues. Donc, qui pouvait être soit dans l'horizon profond de la transition, soit celui du podzol développé. Mais on voit que la distribution est plus en faveur du podzol développé. Et en plus, on retrouve les deux flèches rouges qui correspondent aux deux produits du podzol développé. Et à l'inverse, on ne retrouve pas les produits qu'on avait dans les horizons de surface. Donc, on a pu ainsi montrer que la matière organique de l'eau des nappes provenait majoritairement de l'horizon le plus profond du podzol développé. Donc voilà, je voulais illustrer donc sur trois exemples un petit peu les démarches qui sont en cours au laboratoire. Et puis ben, vous avez là les noms des personnes qui ont contribué à ces travaux, et en particulier Laurent Rémusat, Audrey Scripchac et Marion Bardi, qui sont trois doctorants qui ont fait leur thèse sur chacun de ces sujets. Voilà, je vous remercie.